toutes et à tous, bienvenue dans le magazine du week-end, votre rendez-vous d'actualité que vous retrouvez chaque samedi et chaque dimanche de l'été. On est ensemble jusqu'à 13h50. Alors que la crise financière s'apprête à souffler ses 10 bougies, la Grèce retrouve son indépendance budgétaire. Est-elle sortie d'affaires pour autant ? Pas si simple, on en parle à partir de 13h15. Mais d'abord, après l'accord trouvé cette semaine pour répartir les 225 migrants de l'Aquarius, une entente européenne est-elle possible face à la crise migratoire ? C'est notre premier sujet.
Dans la mesure où je me suis habitué à ramasser des cadavres, je peux bien m'habituer à attendre. Au moins cette fois-ci, c'est des vivants que j'ai avec moi. On les traite avec dignité, ce que nos autorités ne font pas.
Cet homme se plaint de douleur. Il y a quelques mois, des Libyens lui ont tiré une balle dans le bras. Pour la lui retirer, il faudra attendre d'être acquis.
Si le monde te rejette, viens mon bébé, je te tiens.
Cette jeune femme de Côte d'Ivoire, jamais elle n'avait pensé un jour devoir se rendre en Europe. Elle vivait en Libye avant la chute de Kadhafi. Lorsque le pays a basculé...
Moi, j'ai été vendue. Pour... la prostitution.
Prostitution forcée. Pour y échapper, elle n'avait pas d'autre choix que de traverser la Méditerranée.
Quand les Français se déplacent pour venir en Côte d'Ivoire, quand ils arrivent, c'est écrit à l'aéroport Akwaba, ce qui veut dire bonne arrivée. Je le dis encore, aujourd'hui c'est l'Afrique qui a des problèmes, demain ça peut être vous les Français, vous les Européens. Arrêtez de dire qu'on ne veut plus des immigrants, ouvrez-nous les portes, on ne va pas exploiter toute votre richesse. Ouvrez-nous les portes, nous ne sommes pas venus violer vos lois. Ouvrez-nous les portes, nous sommes des êtres humains.
Extrait d'un reportage de Maureen Mercier qui était sur l'Aquarius pour France Info. Un bateau qui erre en Méditerranée et plusieurs centaines de migrants suspendus à une décision européenne. Voilà un scénario qui semble devoir se répéter encore et encore depuis que l'Italie a annoncé la fermeture de ses ports début juin. Cette semaine, l'Allemagne, l'Espagne, la France, le Luxembourg et le Portugal ont accepté d'accueillir les 225 migrants présents à bord de l'Aquarius. Le navire de sauvetage a pu accoster à Malte après 24 heures d'incertitude. Et ces dernières semaines, d'autres accords entre certains pays européens ont permis de répartir plusieurs dizaines de migrants sur le vieux continent. Alors ces ententes ponctuelles peuvent-elles ouvrir la voie à un nouveau règlement européen sur les migrations ? La fracture entre une Europe de l'Est soucieuse de protéger son identité et une Europe de l'Ouest de plus en plus fermée est-elle encore surmontable ? On en parle avec nos deux invités. Bonjour Coralie Delhomme.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, essayiste, auteur du blog La Reine Nue et auteur entre autres de La fin de l'Union Européenne, paru aux éditions Michalon. À vos côtés, Yves Bertoncini, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être là, président du mouvement européen France, ancien directeur de l'Institut Jacques Delors, et vous avez également été administrateur de la Commission européenne. Alors depuis le sommet européen de juin qui préconisait de trouver des solutions européennes aux questions migratoires, les accords se multiplient entre groupes de pays. À Malte, 8 pays se sont engagés à accueillir les réfugiés du Lifeline en juillet. Un peu plus tôt, Madrid et Paris s'étaient entendus au sujet des migrants de l'Aquarius qui étaient arrivés à Valence. L'Europe à plusieurs vitesses, c'est désormais plus que jamais une réalité, Yves Bertoncini ?
En matière d'accueil des réfugiés, c'est vrai qu'on est passé d'un schéma de solidarité obligatoire à un schéma de solidarité à la carte. Mais dans un contexte tout à fait différent désormais, puisque la crise migratoire est très largement derrière nous. La crise des réfugiés est très largement derrière nous. Il y a certes toujours une forme de pression migratoire venant de l'Afrique, qui est liée au différentiel démographique et de développement. Mais enfin, on est très très loin du moment 2015-2016 où il y a eu un afflux massif de demandeurs d'asile vers l'Europe, suite notamment aux signaux de bienvenue envoyés par Angela Merkel en écho à ce que voulait faire son peuple, il faut le dire, le rappeler. Mais des signaux qui ont engendré une forme d'afflux massif et une forme de chaos migratoire en Europe, des images dont on se souvient tous, avec des pays qui ont été tout à fait débordés, mais qui l'étaient déjà, la Grèce, la Hongrie aussi a été débordée, l'Autriche, l'Italie, et dans ce contexte avaient été mises en place d'abord des mesures, j'y reviendrai à la source, pour essayer de tarir les flux, de contrôle des frontières, mais aussi à l'intérieur de l'Europe, des mesures de solidarité. Qui n'ont pas fonctionné d'abord parce qu'il y avait une différence de diagnostic entre pays européens et même entre citoyens européens, il faut le dire, la fracture est là, entre des peuples qui pensaient que des demandeurs d'asile sont des victimes qu'il faut accueillir et protéger, et d'autres peuples qui pensaient que c'était des menaces.
Voilà. Vous parlez
et donc,
ces... Vous parlez de cet accord de 2015, pardon, qui, en l'occurrence, a permis de relocaliser seulement un tiers des 160 000 migrants qui étaient censés être relocalisés.
Et donc, en effet, ce mécanisme aussi, ce mécanisme de relocalisation, qui était un mécanisme de solidarité, d'abord, il a été refusé par la Hongrie, alors qu'il aurait dû lui bénéficier, donc il devait bénéficier encore à la Grèce et à l'Italie. Mais j'allais dire, que ce soit des pays comme la Pologne ou la République tchèque, dont les dirigeants et dont les peuples ne voulaient pas accueillir des demandeurs d'asile. Mais même dans des pays comme la France, qui s'était engagé, rappelons-nous Manuel Valls, à en accueillir 30 000 et pas un de plus, on en est à 6 000 là. Donc c'est un mécanisme qui n'a pas marché pour des raisons politiques et pratiques. Et c'est pour ça qu'au dernier Conseil européen, par pragmatisme, on est passé à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire un mécanisme de solidarité, des mécanismes ponctuels et volontaires qui se mettent en place, notamment entre pays du sud de la Méditerranée.
Coralie Delhomme, ces mécanismes ponctuels actent le fait que l'Europe ne parvient pas à trouver une solution commune face à la question migratoire.
Justement, je me demande si vraiment elle parvient pas. En fait, on est passé à la, dans ce domaine-là, en fait, à des négociations à la carte, au cas par cas, en fonction de ce que désirent les États, de ce que désirent les peuples, en fonction de ce qu'ils peuvent faire, de ce dont ils ont besoin ou pas. Et finalement, on est revenu à une sorte de négociation un peu, qui est normale, classique dans les relations entre pays, c'est-à-dire l'intergouvernementalité. Et ce qui a échoué, en réalité, c'est... En fait, si vous voulez, la crise des migrants, ça révèle un peu, ça souligne le hiatus entre l'Europe telle qu'elle est et l'Europe telle qu'elle pourrait être. L'Europe telle qu'elle est, c'est un ensemble supranational qui fait fi de la souveraineté des nations. Et ça ne marche pas avec une Commission européenne qui a réalisé des quotas. Bon, je ne sais pas vraiment si on peut travailler comme ça, parce qu'il y a des pays qui ne veulent absolument pas, pour mille et une raisons, de migrants. Et ce qui se passe maintenant est un peu plus classique, c'est-à-dire que ce sont des pays qui s'entendent entre eux, souvent des pays qui sont directement concernés par le phénomène et qui n'ont pas les mêmes problématiques, par exemple, que la Pologne ou que la République tchèque.
Donc ces ententes ne peuvent pas constituer une base pour un accord des 28 pays européens sur cette question des relocalisations.
Des 28, moi je pense qu'il faudrait déjà commencer à s'entendre entre les pays les principaux concernés, c'est-à-dire les pays, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, l'Espagne, les pays qui ont vraiment à traiter cette question-là.
Alors déjà en 1999, on parlait de créer une procédure d'asile commune et un statut uniforme valable dans toute l'Union européenne. Aujourd'hui, dans un premier temps, est-ce qu'on peut imaginer, Yves Bertoncini, une procédure d'asile qui serait commune à un groupe de pays ?
D'abord, il faut rappeler qu'il y a un consensus européen aujourd'hui qui est plus aisément identifiable qu'à l'époque où certains pays ouvraient les bras et d'autres les fermaient, hein, donc fermaient leurs portes. Aujourd'hui, les Européens sont d'accord pour agir à la source. Quand il s'agit de régler la crise libyenne, c'est plus facile à dire qu'à faire, certes, mais il n'y a pas de désaccord sur l'idée qu'il faut agir à la source des conflits qui ont généré des flux de réfugiés. Bon. Ils sont aussi d'accord pour dire qu'il faut faire des actions de coopération avec les pays de transit. C'est ce qui a été fait avec la Turquie. La Turquie, il y a eu un accord qui n'est pas parfait du point de vue humanitaire, c'est de la réalpolitik, mais à partir du moment où il y a eu un accord entre l'Union européenne, l'Allemagne d'abord, l'Union européenne et la Turquie de M. Erdogan, ça a permis de maintenir les demandeurs d'asile là-bas. Ils sont d'ailleurs massivement en Turquie, en Liban et en Jordanie. Ils ont jamais été massivement en Europe. Bon, là-dessus, un accord. Un accord aussi, troisièmement, sur le fait qu'il faut mieux protéger les frontières extérieure. Et donc, il y a eu une forme de sceau fédéral, un corps européen de garde-frontières qui a été créé et qui peut intervenir avec l'idée que, donc, puisque ce sont nos frontières, les frontières extérieures, il n'y a pas de raison que les Grecs soient seuls à garder nos frontières. On les aide et on est là. Même chose pour l'Italie. Mais, et je viens à votre question, mais je voulais rappeler quand même ces éléments d'accord d'abord, il reste un dissensus majeur entre États européens sur qu'est-ce qu'on fait des demandeurs d'asile qui arrivent tout de même. Parce qu'ils ont le droit, hein. Bien sûr qu'il faut renvoyer les immigrants illégaux, mais avant il faut examiner. Et donc les demandeurs d'asile, qu'est-ce qu'on en fait? Dans quelles conditions on les accueille? Et c'est là que d'abord il y a des dissensus, enfin plus que ça, hein, des divisions politiques très fortes entre des pays qui ne veulent aucun demandeur d'asile, surtout s'ils sont arabes ou musulmans, et d'autres qui considèrent que c'est la tradition humaniste européenne. Et donc c'est pour ça que dans ce contexte-ci, quand on regarde le détail des conditions dans lesquelles on pourrait accueillir ces demandeurs, les instruire, Oui, bah, il y aura sans doute une harmonisation à 27 extrêmement difficile à obtenir, mais peut-être un rapprochement entre pays volontaires pour qu'au fond, ces demandes soient traitées avec célérité, avec humanité, et qu'ensuite, les demandeurs d'asile qui y ont droit puissent être accueillis chez nous.
Coralie Delhomme, c'est volontairement provocateur, mais l'Italie, finalement, a eu raison de fermer ses frontières, puisqu'elle a forcé les pays européens à prendre leurs responsabilités, ce qu'ils ne faisaient pas depuis des années.
C'est la manière dont fonctionnent les relations internationales en général, c'est-à-dire sont des rapports de force qui peuvent ou pas aboutir à des accords. L'Italie a fait valoir sa souveraineté, elle a dit qu'elle avait très largement contribué, ce qui est vrai. Il faut quand même rappeler que ce qui a mis le chaos au départ, c'est la décision unilatérale de l'Allemagne, en 2015, d'ouvrir grand ses frontières. Et en fait, ça, c'est assez révélateur de la manière dont fonctionne l'Union européenne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un pays qui est l'incontestable leader, mais qui a tendance à fonctionner de manière unilatérale et dans plein de domaines. L'Allemagne a décidé d'ouvrir ses frontières sans concertation. Puis, elle a décidé de négocier avec la Turquie sans concertation. Et ça, c'est caractéristique de la manière de faire de Berlin. Dans plein de domaines, la sortie unilatérale du nucléaire, des tas de choses comme ça où l'Allemagne fait cavalier seul.
On va reparler de l'Allemagne dans un instant, mais d'abord un dernier mot sur cet accord donc, qui vient d'être conclu entre ces 5 pays européens. Emmanuel Macron s'est personnellement investi dans cet accord de répartition. Yves Bertoncini, à 9 mois des élections européennes, il veut s'afficher comme un progressiste face à la montée des populismes.
Ce qui est sûr, c'est qu'il a raison de s'investir parce que la France, il faut le redire, n'est pas et n'a jamais été confrontée à un afflux massif de demandeurs d'asile. Quand le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a dit que certaines régions françaises étaient submergées, il a beaucoup fait ricaner, mais c'était un rire jaune, hein, dans les pays qui, eux, ont vraiment été confrontés à ces afflux massifs, y compris d'ailleurs l'Italie. La France n'a pas été confrontée à un afflux massif et la France n'a pas été solidaire. La France n'a pas été solidaire parce qu'elle n'avait pas confiance. Elle n'avait pas confiance dans l'Italie de M. Berlusconi, qui ne gardait pas les frontières. Et elle n'a pas toujours confiance dans ce que pourraient faire les demandeurs d'asile qui aujourd'hui sont en Italie et en Allemagne et qui pourraient venir en France. Donc il y a cette crainte qu'on peut comprendre. Simplement, elle n'a pas été solidaire, y compris quand il fallait qu'elle accueille ses 30 000 et pas un de plus demandeurs d'asile. Elle n'a pas été solidaire parce qu'elle ne l'a pas voulu et parce qu'ils ne l'ont pas voulu non plus. Ils ne l'ont pas voulu, ils n'ont pas voulu venir en France. Donc maintenant, dans ce contexte qu'a trouvé Emmanuel Macron, il a raison de montrer que même s'il faut contrôler tout ça, que ça ne doit pas se faire de manière anarchique, maintenant qu'on a un corps européen de garde-frontières, le déficit de confiance est un peu réduit, il a raison de montrer des signes d'ouverture et il faut qu'il l'assume politiquement. Et ça serait plus facile à assumer s'il disait les choses clairement. Nous ne sommes pas confrontés à un afflux massif. Et comme l'avait dit Mme Merkel, même si en effet, je suis d'accord, c'est une décision unilatérale qu'elle avait prise et qui a eu des conséquences politiques fâcheuses, la France peut le faire. La France, qui est en train d'être refondée ou redressée, que sais-je encore, a les moyens de faire cela. Et ce n'est pas seulement parce que c'est conforme à sa tradition humaniste, mais parce qu'elle a les moyens et même l'intérêt de le faire.
Je voudrais qu'on revienne sur l'accord conclu lors du dernier...
Je peux juste allez-y, je vous en prie. Dessus. La France n'a pas été solidaire. L'année dernière, la France était le deuxième pays en termes de demande d'octroi de demande d'asile, en fait. Le nombre de demandeurs d'asile vers la France a augmenté. Il y a eu 40 000 demandes d'asile accordées l'an dernier. C'est le deuxième pays derrière l'Allemagne. Le problème, c'est que quand on parle de cette crise migratoire, c'est ça qui me semble générer plein d'incompréhension, c'est qu'on ne sait pas vraiment de quoi on parle quand on parle des migrants, en fait. Les migrants, on a tendance à considérer que ce sont tous des demandeurs d'asile. Mais ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas tous des demandeurs d'asile. Il y a beaucoup de migration économique aussi. Donc si on fait croire aux gens qu'on va accueillir tout le monde, évidemment les sociétés se braquent. Il faudrait être capable de distinguer les différents types de migration, l'asile, les migrations économiques, les migrations pour d'autres raisons, les étudiants, le regroupement familial, etc. Et savoir exactement de quoi on parle. Effectivement, s'il s'agit d'octroyer l'asile à 40% des personnes qui le demandent en France aujourd'hui, on peut. Mais s'il s'agit d'ouvrir les portes à de vastes flux de migration économique, ça c'est pas possible. Donc en réalité, il faudrait que les gens sachent de quoi on parle et également ce qu'on fait des gens qui sont déboutés.
Yves Bertoncini.
Non, mais sur la façon dont la France a été solidaire, deux choses. D'abord, quand on calcule le nombre de demandeurs d'asile accueillis, il faut le ramener au nombre d'habitants du pays, parce que sinon, effectivement, la France sera toujours devant Malte. Sauf que le pays débordé, c'est Malte, c'est pas la France. Et donc, quand on calcule par habitant, la France est 15 ou 16e sur 28. Et puis surtout, le mécanisme de solidarité, Matteo Salvini a fait le tour des plateaux en Italie en disant « Regardez les chiffres, le mécanisme de solidarité, la France 30 000, pas un de plus, il en fallait 10 000 d'Italie. » Eh bien la France en est à 635. Et donc vis-à-vis de l'Italie, et les Italiens ont raison, et ça va bien au-delà de Matteo Salvini, la France n'a pas montré de solidarité. Et ce qui se passe à Vintimille montre qu'elle n'est pas dans une démarche de solidarité. Voilà, et donc simplement maintenant que la crise est avant tout... Oui, mais pour examiner les demandes, il faut bien que les gens arrivent. Et bien sûr qu'ensuite, il faut faire le tri entre ceux qui ont droit à l'asile et les autres. Et bien sûr que d'ailleurs, l'une des grandes difficultés, c'est que les autres, on a du mal à les renvoyer. Et donc bien
voilà,
sûr,
c'est
pour ça qu'il faut agir à la source. Et c'est pour ça que les Européens sont d'accord pour ça. Simplement, la France, et je tourne ça positivement, a une carte dans son jeu pour montrer davantage d'ouverture et de solidarité, c'est en tout cas, et ça c'est certain, ce qu'attendent ses partenaires.
Et c'est à cela que sont censés servir ces centres contrôlés qui sont prévus par le dernier sommet européen en juin, des centres qui sont censés justement distinguer les migrants en situation irrégulière et ceux qui peuvent demander le statut de réfugié, sauf qu'on se demande aujourd'hui qui pourrait accueillir ces centres. Pour l'instant, on a essuyé que des refus en Europe. Coralie Delhomme.
Oui, effectivement, il va falloir... Et c'est là d'ailleurs qu'on voit aussi que l'Europe, il n'y a pas qu'avec l'Europe qu'on doit traiter. Il y a aussi avec les pays de départ, il y a aussi avec les pays de passage en Afrique du Nord. C'est pas une solution qui est exclusivement européenne. Mais encore une fois, je voudrais vraiment insister là-dessus. Si on était capable de dire aux gens ce qu'on fait des gens qui sont déboutés du droit d'asile, et qu'on était capable de dire aux gens, les migrants économiques, on les renvoie, l'acceptabilité par les populations serait bien supérieure.
Je voudrais maintenant qu'on parle de l'Allemagne.
Ce week-end à Munich a été très chargé. Hier, 6800 réfugiés sont arrivés ici. Je me sens bien. J'ai l'impression que je peux enfin respirer. Les gens se trouvent dans des conditions difficiles. Ils ont faim, ils n'ont pas de vêtements chauds, ils sont faibles, malades. Quelqu'un peut mourir à tout moment. Il faut que nous y allions maintenant, tous ensemble.
L'Europe dans son ensemble doit avancer. Les États doivent se partager la responsabilité des réfugiés demandeurs d'asile. L'Allemagne est un pays fort. L'angle sous lequel nous devons aborder la question est « Nous avons accompli déjà tant de choses que nous y arriverons ».
Voilà, c'était en août 2015, après qu'Angela Merkel a décidé d'ouvrir ses frontières aux réfugiés. 3 ans plus tard, les choses ont bien changé. L'opinion allemande, Yves Bersoncini, s'est retournée contre les migrants.
Quand on regarde la façon dont les choses se passent, bien sûr, ce que nous voyons, c'est une réaction politique négative. Il y a un parti, Alternative für Deutschland, qui s'est d'abord créé sur le refus de la solidarité vis-à-vis de la Grèce dans la crise financière, on y reviendra, et puis qui a eu une progression nette parce qu'une fraction des Allemands, notamment dans l'Est-Allemagne de l'Est et en Bavière, refusait cette solidarité vis-à-vis des réfugiés. Bon, et donc l'Alternative für Deutschland n'a pas gagné les élections, mais est en progression. On peut avoir cette lecture politique. Et maintenant, les flux ont été mis sous contrôle, encore une fois. Et c'est ça qu'il faut dire, y compris avec Mme Merkel, l'accord avec Erdogan, etc. Donc, c'est beaucoup plus sous contrôle qu'avant. Si on regarde les choses du point de vue économique et social, il y a eu quelques faits divers, évidemment, qui ont avivé cette équation migrant égale insécurité, migrant égale problème identitaire, etc. Mais globalement, il faudrait regarder davantage les choses calmement. Beaucoup vous diront que c'est pas si mal pour l'économie, pour la démographie allemande, pour sa société. C'est une forme de moment huguenot. C'est, les Allemands avaient beaucoup profité du fait que les Français chassaient les protestants et les huguenots. Et donc, on regardera sur la longueur. Les mauvaises langues diront même que cette générosité allemande avait des arrière-pensées économiques. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'il faudrait faire sereinement comme analyse. Ce qui est difficile parce que les sujets migratoires sont des sujets inflammables, pas seulement pour des raisons liées à la souveraineté, mais aussi à l'identité, aux angoisses qu'éprouvent les Européens aujourd'hui en matière identitaire.
Un quart du 1,5 million de réfugiés arrivés depuis 2015 en Allemagne auraient trouvé un emploi. Et pourtant, on voit que la coalition allemande d'Angela Merkel a été extrêmement fragilisée par cette question et a dû durcir sa politique migratoire, Coralie Delhomme.
Mais oui, parce que lorsque Angela Merkel a pris la décision d'ouvrir ses frontières, elle l'a fait de manière totalement inconsidérée. C'est-à-dire qu'elle a dit on accueille tout le monde. Et mettant devant le fait accompli les pays de passage également. En réalité, l'immigration migration, c'est pas bon ou mal. Ça dépend du rythme d'arrivée des flux et de la capacité qu'on a à intégrer les gens. Un million de personnes en 2015-2016, c'est énorme dans un pays. Alors évidemment, l'Allemagne est confrontée à un problème démographique et ça a énormément joué. Bien sûr, l'industrie allemande manque toujours de main d'œuvre. Je pense aussi que Angela Merkel voulait faire oublier la manière dont elle a traité la Grèce en 2015. Et redorer un peu le blason humanitaire de l'Allemagne. Mais en revanche, c'est que c'est une population qui vieillit, la population allemande, et ces populations qui vieillissent sont en proie à des interrogations identitaires, et ça n'est pas anormal.
Alors la présidente du groupe parlementaire de la gauche radicale, Die Linke, dit vouloir en finir, je cite, avec la bonne conscience de gauche sur l'accueil. Elle veut contrer l'extrême droite allemande en proposant une autre politique migratoire soucieuse de protéger les bas salaires. Désormais, Yves Bertoncini, même l'extrême gauche veut durcir la politique migratoire ?
Semble-t-il, en Allemagne, mais tout peut s'expliquer dans un pays qui, en effet, a été confronté à un afflux migratoire massif, et on vient de le rappeler. Et parfois, ça peut s'expliquer de manière intellectuelle, parfois il s'agit d'arrière-pensée politicienne, mais nul doute qu'un afflux massif, comme celui qu'ont connu les Allemands, aura des conséquences économiques, financières, sociales ambivalentes, parce qu'il y a des points positifs, il y a des points négatifs, et puis ça a des conséquences électorales d'ores et déjà négative pour la grande coalition. Et donc que les partis d'à côté cherchent à en bénéficier, bon, écoutez, c'est assez naturel.
Et Coralie Delhomme, que répondez-vous à ceux qui estiment que l'Europe est obligée de toute façon de durcir sa politique migratoire, ne serait-ce que pour empêcher l'extrême droite de continuer à progresser ?
Pas seulement pour empêcher l'extrême droite de progresser. Moi, je pense qu'il faut mettre un peu d'ordre. Et je suis désolée de me répéter, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut savoir de quoi on parle quand on parle des migrations. On ne peut ni accueillir tout le monde, ni accueillir personne. Voilà. Et je pense qu'il faut, il faudrait mettre ça un peu sur la table et avoir une idée claire de quoi on parle et des chiffres.
Angela Merkel a en tout cas réussi à sauver son gouvernement, mais pour combien de temps ? Et Bertoncini, elle demeure très fragilisée.
Oui, elle demeure fragilisée, mais aussi parce qu'elle est en fin de cycle, avec tout le respect qu'on peut lui devoir. C'est son quatrième mandat, donc les couteaux s'aiguisent. Bien sûr que les défis migratoires, ce qui s'est passé, la crise des réfugiés, offre un angle d'attaque très important à ses détracteurs. Mais il y a d'autres sujets qui la fragilisent. Ça reste une chancelière courageuse qui, même si elle a pris cette décision d'accueil fondée sur l'éthique de conviction, comme on dit, et sans avoir une éthique de responsabilité assez développée pour l'équilibrer, ça reste une chancelière qui, dans l'histoire, aura marqué et, en tout cas, aura essayé en pareille circonstance, avec toutes les maladresses qu'on a relevées, d'envoyer un double message, ce sont des victimes, même s'il faut regarder, en effet, parce que c'est pas tous des victimes, il y a même eu des terroristes infiltrés. Donc ceux qui disaient qu'il y avait des menaces, bah oui, avaient malheureusement, je dirais, raison, les terroristes du Bataclan ou du Stade de France, plus exactement, ils sont passés comme ça. Mais surtout, et je crois que c'est ça la clé, et y compris face à l'extrême droite, nous pouvons y arriver, a-t-elle dit, wir schaffen das, voilà. Parce que cette crise migratoire est une crise identitaire qui n'a pas porté que sur l'identité de ceux qui arrivent. C'est sur notre identité à nous. Qui sommes-nous, nous ? Est-ce que, et encore une fois, pas seulement des humanistes, mais est-ce que nous sommes capables, nous ? Ou est-ce que nous sommes si faibles que nous ne pouvons pas faire face ? Et au fond, c'est ça qui souvent donne, j'allais dire, une prime aux extrémistes et à l'extrême droite. Cette idée que, ben non, on ne va pas y arriver. Que par exemple, en France, la France ne peut pas se permettre. Ce que Emmanuel Macron avait appelé l'esprit de défaite. Eh bien, Mme Merkel a essayé de faire preuve d'esprit de conquête.
Mais ça n'a pas marché.
Ça a marché au sens où ensuite, elle a rectifié le tir. Et en effet,
elle s'est rendue compte très vite qu'elle avait fait une bêtise. Elle a décidé de mettre sur pause les accords de Dublin. Et 3 mois plus tard, elle avait déjà changé d'avis. Et
un peu plus que trois mois plus tard. Mais je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faudrait qu'elle reconnaisse qu'elle a fait une erreur. C'est plutôt difficile de le faire pour un responsable politique.
Vous parliez de la question identitaire, elle est particulièrement présente dans les pays d'Europe de l'Est, alors même que ce sont des pays qui connaissent un fort déclin démographique. Les pays d'Europe centrale et orientale sont appelés à perdre 15% de leur population d'ici à 2050, selon une étude de l'Institut Montaigne parue en juillet. Et pourtant, on constate effectivement ce rejet total de l'immigration telle qu'elle est à l'heure actuelle. malgré ce besoin de main-d'œuvre. Comment on l'explique, Coralie Delhomme ?
Je pense que c'est justement le facteur dépopulation est très important. En principe, la logique voudrait qu'on se dise, on se dépeuple, on va accueillir plus. Mais en réalité, des pays qui se dépeuplent à cette vitesse, parce qu'ils ont vraiment de gros problèmes à la fois de fécondité et d'exode.
D'où la politique nataliste lancée par Viktor Orban en Hongrie.
Mais et ces pays-là, du coup, sont en proie à une angoisse identitaire qu'on peut comprendre. Mais après, concernant l'émigration en provenance du Sud, ce sont des pays qui n'ont pas de tradition coloniale, qui n'ont aucune culpabilité post-coloniale et qui sont géographiquement là où ils sont. C'est-à-dire que pour eux, je pense qu'il est plus simple d'accueillir des Ukrainiens que des gens d'Afrique de l'Ouest.
Yves Bertensenim.
Moi, je comprends tout à fait le fait que les pays d'Europe centrale ont une histoire différente de la nôtre, et notamment, ce ne sont pas des sociétés multiculturelles, un rapport complexe à l'islam, puisque les Ottomans sont quand même venus faire le siège de Vienne, donc il y a une peur immémoriale, si je puis dire. Bon. Après, il y a eu une exploitation politicienne éhontée de la part de M. Orban, qui était tout à fait en perte de vitesse à l'époque, en Slovaquie, M. Fico, qui ont attisé les peurs, dans un contexte où ils auraient tout aussi bien pu dire, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, les demandeurs d'asile qui venaient vers l'Europe n'avaient aucune envie d'aller en Pologne. Aucune. Et donc, c'est ça l'absurdité de la situation. Ils n'avaient pas envie d'y aller non plus. Et donc, ça a été un fantasme attisé. Alors, je comprends qu'en Hongrie, où là, il y a eu un afflux massif, les gens sont arrivés en gare de Budapest. Ils ont vu les images. Ça aurait pu être... Mais en Pologne, par exemple, il n'y a jamais eu d'afflux massif de réfugiés. Pour autant, dernier point, c'est vrai que si on veut être pragmatique, regardez ce qui s'est passé en Pologne récemment. Il y a eu des réfugiés ukrainiens, pour le coup. Il y en a eu, parce qu'il y avait un conflit en Ukraine. Et la Pologne a accueilli beaucoup d'Ukrainiens. Ça s'est passé. Cet été, le gouvernement polonais a lancé une campagne pour accueillir des immigrés économiques philippins. Pourquoi ? Parce que ce sont des catholiques. Voilà. Et bonne chance. D'ailleurs, on verra si les Philippins veulent venir s'établir en Pologne. Bon. Donc peut-être qu'en effet, il faut aller au bout de ce débat sur l'immigration en ne méconnaissant pas qu'en effet, dans certaines sociétés, il y a quelques angoisses culturelles et qu'après tout, ces angoisses culturelles peuvent être partiellement légitimes. Ceci étant, ça ne réglera pas la question de la solidarité entre Européens. Parce que la solidarité entre Européens, elle est plus vaste que celle-là. Elle est notamment financière. On l'a vu dans la crise de la zone euro. Il y a un budget, il y a plein de mécanismes de solidarité. Et c'est vrai que ce qui restera difficile, c'est de la part de ces pays d'Europe centrale d'avoir refusé, sans autre forme de procès, de montrer une forme de solidarité, au moins sur le principe. Et ils auraient pu le faire parce qu'ils savaient très bien que les demandeurs d'asile ne seraient pas venus de toute manière.
Coralie Delhomme, ils vont payer le prix de cette non-solidarité ?
Mais non, en réalité, c'est beaucoup de choses sont liées entre elles. C'est-à-dire que l'Europe, on l'a conçue essentiellement comme un grand marché, où tout circule librement, les capitaux, les personnes, etc. Et économiquement, c'est un désastre, en fait. Ça provoque une distorsion de développement. Les pays du centre de l'Europe se sont beaucoup développés. Tous les pays de la périphérie restent à la traîne, en fait, si vous voulez. Ça génère de la divergence. Et sur un mécanisme d'eurodivergence qui était déjà présent pour des raisons économiques, vient s'ajouter la crise des migrants au moment où l'Europe est en train par ailleurs de se disloquer. Donc ça a été aussi le révélateur, en fait, du fait que on ne peut plus s'entendre parce qu'on a trop divergé les uns les autres.
Je voudrais simplement vous entendre sur le fait que l'Europe externalise de plus en plus sa politique migratoire. Il y a notamment ces plateformes de débarquement qui ont été proposées lors du sommet en juin dernier, donc qui pourraient voir le jour. Ce seraient des plateformes qui accueilleraient les migrants en dehors de l'Union européenne. À l'heure actuelle, aucun pays n'a accepté d'accueillir ces structures. On a du mal à imaginer qu'elles puissent voir le jour, Gilbert Tansigny.
Ce qu'il faut tout de même rappeler, c'est qu'au tout début de la crise des réfugiés, donc 2015, le mécanisme dont on a beaucoup parlé, de relocalisation, qui a été mis en place, portait sur les demandeurs d'asile arrivés en Grèce, en Italie, en Hongrie, en surnombre, et donc d'autres pays s'engageaient à les accueillir pour examiner leurs demandes et les renvoyer le cas échéant. Mais il y avait un autre mécanisme, ça s'appelle la réinstallation. Ce n'est pas la relocalisation, réinstallation. Ça a fonctionné un tout petit peu à partir de la Jordanie, du Liban, et c'est un peu cela qu'on réinvente, en fait, sans le dire. C'est-à-dire que les demandeurs d'asile, plutôt que de laisser prendre la route dans les mains des passeurs et risquer leur vie et souvent la perdre, on examine leurs demandes sur place, en Jordanie, au Liban. Et puis, à ce moment-là, si c'est oui, ils viennent. Si ce n'est pas possible, ils restent et même, ils peuvent être envoyés. C'est ça qu'il faut faire. Mais pour ça, et ce n'est pas idiot intellectuellement, mais pour ça, il faut arriver à avoir l'accord de pays comme la Jordanie, le Liban, la Turquie. Et puis, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est là que ça se concentre aujourd'hui, les pays d'Afrique du Nord.
Oui,
et dans un pays comme
la Libye,
qui a deux gouvernements, y compris parce que les Français ont désingué les autorités libyennes de l'époque, et ça, c'est mal vu, évidemment, côté italien, c'est plus difficile à faire.
Oui, mais retenir les migrants en Libye aujourd'hui, on sait ce que ça veut dire. On sait que c'est les exposer à la torture, à la prostitution, le travail forcé. Enfin,
mais
on ne peut pas considérer que la Libye est un pays sûr.
Encore plus loin sur la route migratoire, c'est-à-dire en amont encore, dans les pays du Sahel, etc. Il faut que ça puisse se mettre en place. Là, mais il faut l'accord des pays concernés.
Coralie Delhomme,
encore une fois,
plateforme de débarquement.
Cette affaire de migration, c'est l'Europe telle qu'elle est, qui nous rappelle l'Europe telle qu'elle devrait être, en fait. Comme je l'ai dit, l'Union européenne est essentiellement un marché, alors qu'elle aurait pu se développer tout autrement, sur le mode intergouvernemental. Il y a eu des projets qui étaient portés par les gaullistes dans les années 60, d'une Europe intergouvernementale qui serait essentiellement dédiée à des coopérations en matière de défense, d'affaires étrangères, etc. Tout ce qui est régalien, en fait, en priorité, et en intergouvernemental, c'est-à-dire sans déperdition de souveraineté des États-nations. C'est un peu ça qui manque aussi. C'est une coopération européenne en matière d'affaires étrangères qui permettrait aussi d'établir des moyens de coopération avec les pays du Sud.
Yves Bertoncini, est-ce que ça passerait aussi par la proposition de Daniel Cohn-Bendit dans Le Monde qui disait qu'il faut créer une agence européenne des réfugiés avec un budget conséquent? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que quelque chose de ce genre émerge au prochain Conseil européen prévu en septembre?
Oui, ça serait souhaitable. On a créé une agence européenne, un corps européen de garde-frontières, en transformant Frontex. Frontex, c'était une agence sans moyens, basée d'ailleurs à Varsovie, où c'était quand même pas en première ligne, pour essayer de mieux contrôler les frontières externes, en tout cas assister les États qui le faisaient. Là, il y a eu un saut fédéral en direction de ce corps européen de garde-frontières. Même chose, en effet, il y a un bureau d'appui à l'asile qui est situé à Malte, qu'il faudrait transformer en agence européenne pour les réfugiés. Faut-il encore, si on veut faire du communautaire, qu'il y ait l'accord de 27 pays? À défaut, s'il n'y est pas, il y aura un accord à minima. Simplement, les mécanismes intergouvernementaux, ce qui parfois bloque leur émergence, et on va le voir, parce que l'autre grand défi de l'Europe aujourd'hui, c'est sa sécurité collective. Il y a des menaces partout, et le protecteur américain n'est plus disponible, en tout cas il n'est plus très fiable, l'oncle Trump. Bon, eh bien, ce qui bloque, y compris les mécanismes intergouvernementaux, c'est les crispations sur les souverainetés nationales. Et donc on verra si sur ces sujets-là, ça peut avancer. Ne confondons pas le problème et sa solution.
Coralie Delhomme, on arrive presque au terme de cette
émission. Parce que les pays ne veulent pas, et c'est bien normal, renoncer à leur souveraineté. Les pays ne veulent pas renoncer à leur souveraineté. Donc la seule chose qui peut marcher à long terme, c'est la coopération intergouvernementale de pays qui restent souverains.
On va continuer à parler en tout cas de division européenne sur la question grecque. Mais merci beaucoup. C'est la fin de cette première partie. Hubert Tonsigny, Coralie Delhomme, vous restez avec nous. Et dans un instant, on va donc parler de la Grèce et de l'espoir d'une sortie de crise. A tout de suite.
Je sais bien que rue Belleville, rien n'est fait pour moi. Mais je suis dans une belle ville, c'est déjà ça. Si loin de mes antilopes, je marche tout bas. Marcher dans une ville d'Europe, c'est déjà ça. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Y a un sac de plastique vert au bout de mon bras. Dans mon sac vert, il y a de l'air, c'est déjà ça. Quand je danse en marchant, dans ces jets là-bas, ça fait sourire les passants, c'est déjà ça. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh, rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Déjà ça. Déjà. Pour vouloir la belle musique, soudain mon soudain, pour un air démocratique, on te casse les dents. Pour vouloir le monde parler, soudain mon soudain, suis de la parole échangée, on te casse les dents. Oh, et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. Je suis assis rue Belleville, au milieu d'une foule, et là le temps est morphine. Je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça.
On est toujours avec Yves Bertoncini et Coralie Delhomme. Et tout de suite, direction la Grèce qui entrevoit peut-être le bout du tunnel.
Le magazine du week-end, Tiffane de Rocchini.
Και φτάσαμε εδώ. Φτάνουμε στο τέλος μιας εποχής που πολύ γρήγορα η κάθε Ελληνίδα, ο κάθε Έλληνας θα θέλει να ξεχάσει.
Nous arrivons à la fin d'une époque que tous les Grecs voudront oublier, la fin d'une douloureuse période de 8 ans. Nous arrivons à la fin des mémorandums, les mots d'Alexis Tsipras au terme de l'accord conclu en juin entre l'Union européenne et la Grèce, qui acte la fin de la tutelle européenne. Dès demain, Athènes pourra donc de nouveau se financer sur les marchés. En tout, le pays a reçu près de 300 milliards d'euros de prêts en échange de dizaines de réformes. Une dette que le pays ne pourra jamais rembourser, estime le FMI depuis plusieurs années. Alors s'agit-il d'une sortie de crise en trompe-l'œil? Avec quelles conséquences pour une population exténuée par des années d'austérité? Et l'Europe a-t-elle tiré les leçons de la crise grecque? On en parle donc avec Yves Bertoncini et Coralie Delhomme. Et on entendra également par téléphone Angélique Kourounis, la correspondante de Radio France à Athènes. Mais d'abord, ce retour de la Grèce sur les marchés, est-ce que c'est une bonne nouvelle, Coralie Delhomme?
C'est pas du tout une sortie de crise. Ça typiquement, dire c'est une sortie de crise, c'est une fake news, vous voyez. La Grèce est un pays qui va très très mal, très très mal, et qui, d'une part, va demeurer sous tutelle, parce que elle devra présenter ses finances publiques 4 fois par an, aux créanciers. Ensuite, c'est un pays qui économiquement est éreinté, en réalité. Le chômage a baissé, mais, il faut savoir qu'il y a énormément de petits jobs, de temps partiel contraint, et puis il y a l'exode. Énormément de gens sont partis, des jeunes qualifiés ont quitté la Grèce, qui sont autant de gens qui feront défaut lorsqu'il va s'agir de redresser le pays.
Pour qu'on comprenne bien, Yves Bertoncini, qu'est-ce que ce retour de la Grèce sur les marchés va changer concrètement?
Politiquement, c'est une sortie de crise au sens où on en termine avec l'Europe FMI, hein, l'Europe qui a dû secourir la Grèce aux côtés du FMI, pas que la Grèce, hein, l'Irlande, le Portugal et Chypre, et qui donc a établi avec ce pays, la Grèce, une relation de conditionnalité, comme le FMI, c'est-à-dire tu as besoin de mon argent, je te prête ça, mais en échange, tu fais ça, ça et ça. D'une certaine manière, là, on en revient à la normale, et tant mieux, parce que les États dans le monde entier, y compris en Europe, ont vocation à se financer sur les marchés. C'est ce que la Grèce va essayer de faire. J'espère qu'elle va y arriver. Et ensuite, elle réglera ses problèmes éventuels avec les investisseurs. Si les investisseurs considèrent que la situation économique, sociale, budgétaire n'est pas bonne, bah, ils renchériront le prix des bons du Trésor. Voilà. Bref. Donc ça, c'est très bon politiquement, parce qu'encore une fois, ce n'était pas la vocation de l'Europe de faire cela. D'ailleurs, les traités européens excluaient qu'on puisse secourir financièrement tel ou tel pays. Ça a évidemment été coûteux politiquement dans un pays comme l'Allemagne, parce qu'une fraction des Allemands ne voulait pas secourir les Grecs et les Irlandais. En Slovaquie, en Finlande, une partie de l'extrême droite dans ces pays est montée sur ce réflexe anti-solidarité. Mais évidemment, ça a été coûteux politiquement pour l'Europe de l'autre côté, hein, pour les peuples qui, comme le peuple grec, ont subi une cure d'austérité. Alors simplement, je voudrais juste ajouter que on peut raconter cette histoire de mille façons. Naturellement que si on est du point de vue économique, social, la crise n'est pas finie. C'est la guerre de Troie qui est terminée. Maintenant, c'est l'Odyssée. Et ça va être long, l'Odyssée. C'était pas fini non plus pour l'Irlande, pour Portugal, pour Chypre. Simplement, ça se poursuit dans des conditions politiques et diplomatiques tout à fait différentes. Et tant mieux, parce que pour moi, ce n'était pas la vérité de l'Europe que cette Europe FMI qu'on a dû mettre en place de manière improvisée et dans l'urgence.
Coralie Delhomme.
Oui, alors je vois pas en quoi il y a un gain politique quel qu'il soit. On a gagné du temps, c'est-à-dire qu'on fait croire aux gens que la Grèce repart comme en 40, que tout va bien, qu'elle va pouvoir emprunter sur les marchés. Bon, d'abord, elle va probablement emprunter très cher. Elle a fait quelque chose comme 80 réformes de structure. Elle a réformé 14 fois ses retraites. Il y a eu ce problème d'exode dont je vous parlais. Les Grecs ne se soignent plus. Donc la Grèce va recommencer à emprunter cher, alors même que elle a déjà une dette dont tout le monde sait en réalité qu'elle est insoutenable. Le FMI l'a dit à 2-3 reprises. Il a commencé à s'exprimer en 2013 en disant ah là là, on s'est gouré précédemment. Finalement, la situation est plus mauvaise qu'on le croyait. Puis en 2015, ils l'ont redit dans un rapport sur le pays, ils ont dit mais cette Grèce n'est pas viable, et ils l'ont redit une nouvelle fois en 2017 en disant à nouveau la dette de la Grèce est insoutenable, le pays sera nécessairement amené à faire défaut, et c'est la raison pour laquelle le FMI d'ailleurs, qui faisait partie de la Troïka au départ, s'est désengagé. Enfin, il reste en Europe comme superviseur, en réalité il ne met plus d'argent, parce que le FMI sait que s'il met de l'argent, il ne retrouvera jamais cet argent. Et ceux aujourd'hui qui sont confrontés à ce problème, ce sont les Européens, donc les principaux prêteurs, qui nécessairement perdront cet argent à un moment.
Vous l'avez dit, en échange de ces prêts, la Grèce a consenti à de lourds sacrifices et notamment à des coupes drastiques dans la fonction publique. Et en effet, pour la population grecque, le bout du tunnel semble encore loin.
Mon père me soutient financièrement et psychologiquement. Et nous vivons tous ensemble. Mon père aide aussi la famille de mon frère. Donc sa retraite permet de faire vivre 3 familles.
C'était mieux avant. Je touchais 1380 euros, plus une prime de Noël, une autre pour Pâques, et une autre aide de l'État. Et un beau matin, les soi-disant sauveurs de la Grèce ont pris leurs couteaux et ont coupé là-dedans, dans toutes les primes. Maintenant, il me reste 947 euros par mois.
Ce n'est pas une soupe populaire. Mais aujourd'hui, il y a des familles qui sont venues plus tôt, car elles ont vraiment besoin de ce repas pour manger. Elles n'ont plus assez chez elles.
Et on va tout de suite retrouver Angélique Kourounis. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous par téléphone depuis Athènes. Vous êtes la correspondante de Radio France en Grèce. Quel regard porte aujourd'hui la population sur ce retour du pays sur les marchés financiers ?
D'abord, je veux juste préciser que je suis à Thessalonique en ce moment pour un reportage.
Par contre, on vous entend très très mal.
Est-ce que vous m'entendez là ?
Oui, on vous entend.
Voilà. Alors, écoutez, que ce soit à Athènes ou Thessalonique ou dans le Péloponnèse ou dans les îles, je n'ai pas trouvé un Grec qui croit à ce retour sur les marchés ou qui croit à cette sortie de crise, pour être tout à fait exact. L'écho que j'ai toujours, c'est « Oh bah oui, on sort peut-être de la crise, mais nous, dans notre poche, on est toujours dans la crise ». En fait, les Grecs sortent, ont conscience qu'ils vont sortir des mémorandums d'austérité, mais qu'ils restent dans la crise. C'est exactement le sentiment qui est partagé par tout le monde, y compris dans le monde des affaires, où la seule chose qui joue pour le monde des affaires, c'est que maintenant que la Grèce a arraché ses bonnes notes, elle a deux belles étoiles sur son épaule, peut-être que les investisseurs vont revenir et peut-être que l'on va faire un peu plus confiance à la Grèce. Mais jusqu'à présent, ce que l'on me dit et ce que le monde des affaires me dit, c'est que les investissements qui se font sont peut-être de bons investissements pour ceux qui viennent de l'étranger, mais pas pour les Grecs. Par rapport, par exemple, le marché immobilier a chuté de plus de 30%, donc les étrangers viennent et achètent pour une bouchée de pain des choses qui valaient très cher, mais les Grecs, eux, sont obligés de vendre parce qu'ils ne peuvent plus faire face aux impôts. Il y a eu ces deux dernières années, 135 000 abandons d'héritage parce que les Grecs ne peuvent plus faire face à leurs impôts. Donc ils n'ont pas du tout, mais pas du tout, le sentiment d'une sortie de crise. Et le journal Tanea, qui est un journal conservateur anti-gouvernemental, a dit « On sort des mémorandums, mais le cauchemar reste ». Et ça, c'est le sentiment qui existe partout. Il n'y a pas, comme un de vos invités a dit, de retour à la normalité en Grèce. Pour l'instant, c'est la normalité qui continue et qui est même légalisée.
Alors Yves-Bert Sanceny, pas de retour à la normalité. On voit que la population grecque paye encore le prix de ces mesures d'austérité.
De quoi la population grecque paie-t-elle le prix? Reprenons le film. Au début des années 2000, les Grecs, la Grèce, a vécu au-dessus de ses moyens. Les anciennes élites politiques grecques qui ont permis cela ont été d'ailleurs lourdement sanctionnées par les citoyens grecs, notamment le PASOK. La Grèce a vécu au-dessus de ses moyens, et y compris à partir du moment où l'euro étant lancé, ils ont pu considérer que, après tout, tout le monde avait la même monnaie, donc tout le monde allait pouvoir s'endetter. Et j'ajoute, les marchés financiers ont commis l'erreur de considérer qu'ils allaient financer la Grèce comme s'ils finançaient l'Allemagne. Voilà. Et donc, il faut rappeler tout cela. Ensuite, arrive le moment où la défiance, suite à une crise financière qui n'était pas européenne, les subprimes, mais que nous avons importée, la défiance s'empare des marchés financiers qui se sont occupés de la Grèce, mais aussi de l'Irlande, mais aussi du Portugal, mais aussi de Chypre. C'est-à-dire qu'ils ont été étranglés. Hein, ces pays-là ne pouvaient plus s'endetter à des taux raisonnables. Et donc, ils se sont tournés vers l'Europe et le FMI. Bon, l'Espagne l'a aussi fait pour ses banques. Bon. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une correction et donc une purge. À une purge sévère, trop sévère. Des erreurs ont été commises. Les banques qui avaient prêté ont en partie renoncé à certaines de leurs créances. Il y a eu ce qu'on appelle un haircut. Voilà. C'est-à-dire qu'elles ont lâché 100 milliards d'euros. Par ailleurs, les plans de sauvetage leur ont permis de ne pas trop perdre, de ne pas tout perdre. Mais elles ont quand même perdu. Elles ont tiré un trait sur 100 milliards parce qu'elles avaient fait des erreurs. Je pense que les créanciers publics, à un moment ou à un autre, seront amenés à faire un trait aussi sur certaines de leurs créances. Même si politiquement, c'est difficile. Parce que ça coûtera des points dans les sondages en Allemagne et autres. Mais, et donc je termine, cette purge a été administrée. Le retour à la normale dont j'ai parlé, c'est un retour à la normale politique, au sens où, comme en Irlande et ailleurs, et les Portugais l'ont fait, ils étaient tout contents de se débarrasser de l'Europe et du FMI, et de revenir dans une forme de logique où, dans laquelle Bruxelles peut envoyer des recommandations, mais on fait ce qu'on veut. Tandis que quand on était dans la conditionnalité, on ne fait pas ce qu'on veut. Et c'était malsain politiquement. Alors, simplement pour terminer, quand j'ai dit qu'on passait de la guerre de Troie à l'Odyssée, je n'ai pas dit que l'Odyssée, c'était une partie de plaisir. Il suffit de connaître l'Odyssée, toutes les avanies qu'a dû vaincre Ulysse pour rentrer chez lui. Ça lui a pris 10 ans pour ne pas penser que c'est une partie de plaisir. Simplement. Et ce n'est pas fini, en effet. Mais au moins, du point de vue politico-diplomatique, on tourne une page comme les Irlandais l'ont fait et d'autres avant eux.
Mais alors, justement, politiquement, Angélique Corounis, est-ce que Alexis Tsipras va tirer les bénéfices de ce retour de l'indépendance financière ou on en est loin? On sait que son mandat arrive à terme en octobre 2019.
D'abord, j'aimerais une chose, ça c'est un mythe, les Grecs ont vécu au-dessus de leurs moyens. Bon, d'accord, dans ces cas-là, on pourrait aussi rajouter que l'Europe s'est offert une monnaie qu'elle n'a pas su gérer et que les payeurs, c'est pas les créditeurs. Je veux dire, l'euro, la décision d'intégrer le sud de l'Europe dans l'euro était une décision politique. Il fallait que l'Europe commune entière ait une monnaie pour faire face, une monnaie forte pour faire face aux autres monnaies qui existaient. Il fallait penser à cela avant. La rectification qui a été faite a non seulement été pas bien géré, mais qui plus est punitif. C'est pour ça qu'on a les résultats que l'on a là. Le troisième mémorandum d'austérité en juillet 2015 était un mémorandum punitif qui visait à casser le Syriza, qui visait à casser la gauche radicale et qui visait surtout à punir les Grecs d'avoir malgré le contrôle des capitaux, les banques fermées, les 6 mois d'austérité, les 5 ans d'austérité précédents, ils ont quand même voté à plus de 62% non à l'austérité tout en restant dans l'Europe. Maintenant, pour répondre à votre question, la problématique du monde politique, elle est double. D'une part, nous avons un parti néo-nazi qui est la troisième force politique en Grèce depuis maintenant presque 5 ans. Ça, c'est la première conséquence politique de la crise et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Selon tous les sondages actuellement, il reste troisième force politique et ça, c'est un vrai problème, mais c'est un problème qui, je crois, existe dans bon nombre de pays européens, à ceci près qu'on ne parle pas d'extrême droite, on a aussi une extrême droite en Grèce, on parle d'un parti ouvertement néo-nazi qui a déjà plusieurs fois tué. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, pour ce qui est du Syriza, la problématique, c'est vrai que Tsipras est lâché, gravement lâché même par les sondages, mais c'est tout aussi vrai qu'il remonte la pente. Le problème, c'est qu'en face, il a une opposition extrêmement divisée, et il a une opposition qui, plus elle fait d'opposition, plus c'est lui qui monte dans les sondages. Donc on est vraiment dans l'incertain le plus total, et quand même, on se rappelle que alors qu'il a retourné le nom des Grecs envers un oui en faveur de l'austérité en juillet 2015, il faut s'en rappeler, il a organisé des élections anticipées en septembre 2015, qu'il a gagné. La problématique, c'est que l'on va, finalement, il n'y a aucun parti qui aura une majorité, et il n'est pas évident que ce sera tout à fait gouvernable avec des coalitions bancales.
Coralie Delhomme, peut-être sur ce malentendu sur lequel s'est fondée la monnaie commune, on voulait construire un projet économique ou on voulait construire un projet politique, difficile de savoir.
On a voulu faire une monnaie en y intégrant des pays dont la structure économique et dont la tradition monétaire est radicalement différente. C'est un projet délirant en réalité. Stiglitz, le prix Nobel d'économie américain, explique que c'est l'une des plus grandes catastrophes économiques qui ait eu lieu. Je pense qu'il a pas... C'est Frankenstein en fait l'euro. Et on se retrouve comme ça avec un pays, la Grèce, qui s'est effectivement surendetté parce qu'à un moment, il a bénéficié des taux d'intérêt exactement les mêmes que l'Allemagne, les marchés lui prêtant abondamment en se disant bah, « de toute façon, s'il y a un problème, les Allemands, les Français paieront ». Ce ne passent pas des philanthropes, les marchés, hein. Ils sont là pour faire de l'argent. Après, il y a eu un défaut partiel en 2012, c'est-à-dire que la dette grecque a été allégée, mais comme l'a rappelé le FMI, en 2013, ils ont fait un bilan là-dessus, ils ont dit « mais on s'est trompé, en fait, on aurait dû le faire en 2010 ». Et la raison pour laquelle le FMI n'a pas fait ça en 2010, c'est que les Européens notamment s'y opposaient fermement, et notamment la France et l'Allemagne, qui étaient les principaux prêteurs, enfin les banques françaises et allemandes étaient les principaux prêteurs de la Grèce, et il fallait leur laisser le temps de se désengager. Donc voilà, les marchés prêtent à des taux. Ils font de l'argent, de temps en temps, bah, ils assument une perte, mais là, en l'occurrence, la perte a été très atténuée par le fait que les institutions publiques européennes ont repris à leur compte la dette les pertes auraient dû être assumées par les banques grecques et allemandes.
Les ministres des Finances de la zone euro se sont en tout cas mis d'accord. Athènes ne commencera à rembourser sa dette qu'à partir de 2032 au lieu de 2022. Alors, c'est un soulagement important pour la Grèce, mais alors, c'est pas non plus une remise de dette, ça ne fait que repousser le problème. Et là, on se heurte au problème politique, effectivement, de cette remise de dette, Yves Bertoncini.
En effet, il faut quand même rappeler, parce que la Grèce a obtenu des plans d'aide, trois plans d'aide successifs, et qu'à ce stade, elle n'a remboursé que le FMI, c'est tout. Elle n'a jamais remboursé, et ça n'a pas commencé, vous l'avez dit, ça commencera seulement en 2032, les autres Européens. Et d'ailleurs, ça a été concédé, ça a été repoussé. La période pendant laquelle elle va rembourser a été allongée et les taux qui lui ont été concédés par les créanciers publics ont aussi été baissés. Donc, il y a eu un aménagement. Mais ça ne suffira sans doute pas. Et en effet, et moi je suis d'accord sur le fait que puisque les créanciers privés ont fait des erreurs, ils ont payé une partie, encore une fois, ils ont abandonné 100 milliards, ils s'en sont remis. Moi, ma banque, par exemple, le Crédit Agricole, a fait des pertes en Grèce avec sa filiale en Poriki. Voilà. Elle s'en est remise, mais elle a quand même abandonné les créances.
C'est normal.
C'est un risque. Quand il y a une erreur,
c'est un risque. Le taux d'intérêt.
Mais là, il ne s'agissait pas que de taux d'intérêt. Encore une fois, la logique, c'est on a fait. Alors, est-ce que les créanciers publics ont fait une erreur dans la façon dont ils ont administré le programme d'aide à la Grèce? Oui, ils ont fait des erreurs. Et donc, ils devraient normalement assumer ces erreurs et, en effet, à un moment, se retourner vers leurs opinions publiques en disant écoutez, bah voilà, on va alléger un peu la dette grecque et donc on va perdre un peu de nos plumes. Ça va, économiquement. politiquement et financièrement, c'est pas grand-chose, mais politiquement, ça risque d'être un débat. Il faudra assumer cela. Pourquoi il faudra assumer cela? Parce que c'est le prix à payer pour que cette union monétaire perdure. Moi, j'ai de moins haute lecture que vous. Je ne lis pas les prix Nobel et Stiglitz qui racontent beaucoup de bobards, à mon avis, sur,
une zone euro.
Qui racontent beaucoup de bobards, ce que j'en entends. Moi, je suis plus prosaïque, terre à terre, les sondages, je regarde les élections. Cette crise de la zone euro a été une confirmation que malgré tous les défauts de l'union monétaire, les peuples y sont attachés. Pourquoi? Parce que l'union monétaire fait la force. Imagine-t-on la crise financière avec la drachme? Imagine-t-on la crise financière avec le franc? En tout cas, on l'a su en Grèce, au moment de ce référendum, il eût été question de revenir, en effet, à la drachme. Eh bien, non à l'austérité, certes, mais si le prix à payer, c'est de sortir et de revenir à la drachme, d'une certaine manière, avec un coût à payer économique, social, politique très élevé, il y a eu la préférence des Grecs pour rester dans l'union monétaire. Et c'est pareil ailleurs dans la zone euro.
Non, c'est pas vrai. Il y a eu un référendum. Non.
Madame Le Pen s'est cassé les dents et a payé pour le savoir. En France, moi, je n'ai jamais vu aucun sondage ou aucun référendum ou aucune élection mettant en tête un parti qui veut sortir de l'union monétaire. Si ça arrive, eh ben ils sortiront. C'est pas une prison.
Les Grecs ont voté à l'occasion d'un référendum où il y a eu un tapage médiatique européen qui leur laissait très clairement entendre qu'ils allaient être foutus dehors. Ils ont voté pour la fin de l'austérité. C'était un consentement à une rupture. Tsipras a transformé les résultats de ce référendum, comme on le fait systématiquement finalement dans l'Union européenne, quand un référendum déplaît, soit on fait revoter, soit on l'annule.
Alors Angélique Kourounis, je voudrais vous entendre là-dessus plus largement. Comment est-ce que le développement économique, quelle stratégie de développement économique pour la Grèce? On sait que le problème de l'économie grecque, c'est son extrême dépendance à ses importations. Il y a eu une croissance de 1,4% l'année dernière, 2% sont prévus cette année. Qu'est-ce qui est prévu comme nouvelle stratégie de croissance, Angélique Kourounis?
Faudrait remettre les choses à leur place. 1,5, même 2,5, allez, je suis généreuse, même 3% de croissance. Quand on a perdu 27 presque pour cent du PIB, c'est rien. C'est une goutte d'eau dans plusieurs océans.
Donc ce sont les effets de rattrapage qui stimulent l'activité à l'heure actuelle encore.
Mais il n'y a pas d'effet de rattrapage. Vous savez, on dit que la Grèce a un excédent budgétaire. Alors c'est très simple. Si vous-même, dans votre budget chez vous, vous ne payez plus la cantine de vos enfants, vous ne payez plus l'assurance de votre voiture, vous mangez que des pâtes et encore sans sel parce que vous n'achetez pas de sel, c'est sûr qu'à la fin du mois, vous allez avoir un excédent budgétaire assez important, beaucoup plus important que si vous aviez fait face à vos obligations. La Grèce a un excédent budgétaire parce qu'elle a réduit, par exemple, d'un tiers ses dépenses médicales, ce qui fait qu'il y a un tiers de la population qui n'a plus accès aux soins, malgré les réformes qui ont été faites, qui fait que les chômeurs peuvent désormais se faire soigner, ce qui n'était pas le cas avant. Si on évite une catastrophe sanitaire actuellement en Grèce, c'est parce qu'il y a 40 dispensaires sanitaires gratuits, autogérés par les gens dans le pays. Il faut quand même le savoir. Par exemple, les gens atteints d'Alzheimer n'ont plus accès aux soins. Il y a des maladies qui sont très lourdes, qui ne sont plus soignées, qui ne sont soignées que dans ces dispensaires médicaux. Les investissements au niveau de l'éducation ont baissé de plus de 25%. Moi, mon fils a terminé son école, il a passé son bac dans des conteneurs sans chauffage pendant 3 hivers. Donc, il faut voir sur le terrain ce que cet excédent budgétaire veut dire, en quoi il se concrétise. Alors, c'est vrai qu'elle a quand même deux gros moteurs, cette économie. Elle a d'abord le tourisme. On attend cette année 32 millions de touristes. La saison va se terminer fin octobre. Et évidemment que le gouvernement mise là-dessus pour faire baisser le chômage, pour faire des reprises, pour attirer des investisseurs. C'est vrai. Sauf que en juillet, selon le journal Kathmerini, qui est un journal conservateur, les licenciements et les pertes d'emplois dans le secteur du tourisme ont été supérieurs aux embauches. Il y a eu environ 8000 pertes d'emplois contre 7000 embauches. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez inquiétant. Et puis il y a la marine marchande. La Grèce est la première marine marchande du monde. Mais là aussi, les bénéfices ne vont pas au pays, puisque c'est essentiellement des commerces qui sont non taxés et qui font bénéficier les paradis fiscaux. Mais il y a beaucoup d'espoir en Grèce, dans la mesure où la Grèce a une main-d'œuvre extrêmement qualifiée. qui parlent plusieurs langues, où les salaires ont baissé dramatiquement, ce qui est vraiment très intéressant pour les investisseurs, et où il y a aussi des bons produits, et il y a des bons produits agricoles, et il y a aussi beaucoup de high-tech, c'est-à-dire de sociétés de nano-électronique.
Yves Bertensi.
On mise là-dessus pour refaire partir l'économie, mais ça ne va pas se faire avant plusieurs années.
Yves Bertensini, comment on va réussir à relancer l'économie alors que l'État est actuellement un si mauvais payeur, à entendre Angélique Coronis, et que les banques sont encore très fragiles? Comment financer l'économie?
D'abord, les marchés vont financer, les investisseurs. Il continue à y avoir des fonds structurels européens qui vont vers la Grèce, qu'il faut utiliser au mieux. Il faut utiliser les ressources qui viennent d'être appelées. Ce pays a des ressources, même s'il a des handicaps spécifiques. Il est périphérique, il est insulaire. Il y a des réformes de structure qui ont été faites. Elles ne sont pas toutes terminées, à mon avis. Je ne suis pas sûr que l'État en Grèce soit suffisamment fiable, robuste. Il y a aussi une évasion fiscale qui reste très forte. Et donc, voilà, simplement... Ça va être aux Grecs maintenant de faire les bons choix parce qu'ils vont sortir d'une relation de conditionnalité. J'insiste là-dessus parce que regardez par exemple ce qui s'est passé au Portugal. Portugal a aussi connu une crise sévère et une purge extrêmement sévère. Bon. Et à partir du moment où il a pu se sortir de l'emprise de l'Europe FMI, avec une nouvelle coalition d'ailleurs qui est arrivée au pouvoir, une coalition de gauche, le Portugal a fait d'autres choix.
Il s'est transformé en paradis fiscal.
Le Portugal a fait d'autres choix. Là aussi, le Portugal a des handicaps spécifiques, c'est périphérique, etc. Mais il a plus ou moins respecté les recommandations que lui faisaient Bruxelles, Berlin et les autres, parce que recommander n'est pas commandé. Et c'est en cela qu'on va changer d'époque par rapport à l'Europe FMI, où là, c'était « je suis ton créancier, donc tu fais ça ». Et si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas l'argent.
L'Irlande, le Portugal et Chypre ont réussi à se relever en 3 ans. On a le sentiment que pour la Grèce, ça va être beaucoup plus long.
Ils se sont pas complètement relevés. Ils ont été tombés tellement bas qu'il y a un rebond. Voilà, mais ils se sont pas complètement relevés. Le Portugal, c'est un peu un exemple en trompe-l'œil, puisqu'ils ils font beaucoup de dumping fiscal maintenant, comme l'Irlande d'ailleurs. C'est des petits pays périphériques qui s'en sortent avec le dumping fiscal, comme les pays de l'Est s'en sortent avec le dumping social. Bon, tout ça, c'est des stratégies non coopératives. Voilà. Sinon, je voulais revenir sur la question de l'État grec, parce que c'est très intéressant. Je ne lis pas seulement des prix Nobel, je lis aussi des historiens. Et il y a un historien de la Grèce, Olivier Delorme, qui est un spécialiste très très pointu, qui a écrit une histoire de la Grèce en 3 volumes, et qui lui explique qu'en réalité, il y a un problème de consentement à l'impôt en Grèce, qui est lié à l'histoire très particulière de la Grèce, qui est un pays qui n'a jamais été complètement indépendant. Il a d'abord été sous le joug des Ottomans, ensuite il a été gouverné par un prince bavarois, ensuite par un prince danois, il a été occupé par l'Allemagne, il a été sous tutelle anglo-américaine. Donc en réalité, les Grecs ont le sentiment que l'État grec n'a jamais été leur État. D'où cette tradition de ne pas payer l'impôt, mais justement, la Grèce est quelque part à nouveau occupée. Tout lui est dicté depuis l'extérieur aujourd'hui. On a rétréci le périmètre de son État et en plus on donne l'impression aux Grecs que tout va aux créanciers et que rien ne va à eux. Comment voulez-vous que la situation s'améliore?
Je voudrais qu'on parle aussi du fait que le 15 septembre prochain, ça fera tout juste 10 ans que la banque Lehman Brothers s'est effondrée. Plus largement, au-delà du cas au-delà de la situation grecque, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Europe est mieux protégée contre un nouvel épisode de tension sur les dettes souveraines comme ceux qu'on a connus en 2010 et entre 2010 et 2012, Yves Bertensini?
Oui, sans doute, parce que des leçons ont été tirées de la crise. Je rappelle qu'on est parti d'une situation où il était non seulement pas prévu d'aider les États, mais même exclu de les aider. Exclu, no bailout, c'était écrit ça dans les traités. Chacun se débrouillera. Et ben, il a fallu aider 4 pays. J'appelle à regarder les 4 pays. Et ils ont eu d'abord des problèmes différents. En Irlande, c'était beaucoup la bulle immobilière et bancaire. C'est pas tout à fait ça en Grèce du tout. Et chaque pays s'en est sorti dans la douleur et continue à lutter aujourd'hui pour aller mieux. La Grèce est un cas spécifique. Alors pour le coup, nous avons les mêmes lectures. Et en effet, le fait que l'État s'était vu comme une personnalité extérieure, c'est payer l'impôt aux Turcs qu'on n'avait pas envie de payer en Grèce. Il y a des éléments culturels.
La présence de la Troïka donne l'impression que rien n'a changé.
Réjouissons-nous, la Troïka, elle s'en va demain. On est là pour ça.
Absolument, elle s'en va.
Il y a des contrôles qui vont demeurer.
Mais oui, mais il y aura des contrôles, mais comme au Portugal. Mais encore une fois, écoutez ce qu'on nous dit.
Des contrôles beaucoup plus importants.
Mais non, on nous dit que le Portugal. Portugal, justement, n'écoute plus ce qu'on lui a dit. Mmh. Le Portugal a tout remboursé, il a pris sa propre voie, donc ce n'est plus la même situation, pour autant que, et encore une fois, pour autant que, parce qu'il y a des lois de la pesanteur, c'est les Grecs qui nous l'ont enseigné, pour autant que cette économie, cet État, fonctionne de manière suffisamment fiable pour donner confiance aux investisseurs, pour donner confiance aux investisseurs qui, à partir de demain, alléluia, reprêteront à la Grèce. Alors, il y a des mécanismes donc de sauvetage qui existent et qui pourraient resservir. Ils n'existent pas avant. Je réponds à votre question. Si l'Italie va mal, ça pourrait resservir. On a fait ce qu'on appelle une union bancaire, c'est un peu technique, mais mieux contrôler les banques, dont les défaillances et dysfonctionnements ont beaucoup coûté, notamment en Irlande et en Espagne. Elles sont contrôlées désormais depuis Francfort et on est en train de faire monter en puissance un fonds qui contribuera ces banques à payer elles-mêmes pour leurs propres bêtises, si jamais elles en refaisaient. Donc ça, c'est une deuxième réponse européenne. Troisièmement, il y a eu de la régulation, la normalisation de la régulation financière. Ça a été en partie à l'origine du Brexit, le fait que Bruxelles, Michel Barnier notamment, a essayé de mieux réguler la finance, les excès, même les bonus de certains traders. Donc ça, ça a été fait. Est-ce que c'est assez? J'en sais rien, mais c'est déjà mieux que ce qui est par exemple en train de se passer aux États-Unis aujourd'hui, où Donald Trump libéralise tout à nouveau et où on va avoir aux États-Unis les risques d'une nouvelle crise financière. Parce que rappelons-nous, ce qui s'est passé en Europe, nous l'avons importé des États-Unis. C'était pas nous qui avions créé les subprimes. Donc l'Europe a fait ce qu'elle a pu. Aujourd'hui, elle est mieux outillée, sans parler de l'hyperactivisme de la Banque Centrale Européenne, qui a été très innovante, au grand désespoir de beaucoup d'Allemands. L'Europe a beaucoup plus d'outils aujourd'hui pour faire face à une nouvelle crise éventuelle.
Coralie Delhomme, l'Europe est mieux protégée aujourd'hui
Concernant les accès de folie de la finance mondiale, je ne crois pas du tout. Pourquoi on a importé la crise des subprimes? Tout simplement parce que au milieu des années 80, la Commission européenne a fait adopter, à l'initiative de Jacques Delors, ce qu'on appelle l'acte unique, qui est un traité qui a transformé le marché commun en marché unique. Et à la faveur de ce traité, on a complètement libéralisé les mouvements de personnes, de capitaux, et on a instauré la libre prestation de services. La libre circulation des capitaux, comme ce n'était pas assez que ce soit juste entre les pays membres du marché unique, on a décidé qu'elle serait également, que les capitaux seraient également libres de circuler entre le reste du monde et l'Union européenne. Conclusion, on est complètement offert au saut de cabri de la finance dérégulée.
Angélique Kourounis, un mot de conclusion, on arrive presque au terme de cette émission.
Eh bien, moi, j'aimerais bien qu'on se rappelle une chose, c'est que les taux d'intérêt qui ont été encaissés par les créanciers de la Grèce lorsqu'on lui prêtait de l'argent, il avait été décidé qu'on les rende au pays parce que c'était estimé immoral de se faire de l'argent sur le dos de la crise grecque. Jamais cet argent n'a été donné à la Grèce. Jamais. Alors qu'il y avait un engagement de la part des créanciers. Et on parle de vraiment plusieurs milliards d'euros. Donc ça, c'est une première chose.
Alors, on vous entend très mal, Angélique Kourounis, je suis désolée, on vous entend très très mal. Mais peut-être on va conclure avec vous, Yves Bertoncini, Coralie Delhomme, d'un mot.
Je pense que madame voulait dire que les créanciers, notamment les États européens qui ont prêté de l'argent à la Grèce, ne l'ont pas prêté gratuitement, ils ont encaissé des intérêts.
Ils en ont tiré des bénéfices. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup Yves Bertoncini, Coralie Delhomme, Angélique Kourounis, qui était au téléphone avec nous. Je rappelle vos livres, Coralie Delhomme, La fin de l'Union européenne, paru aux éditions Michalon. Angélique Kourounis, Visage de la crise, Nous, gens du Sud, pauvres et fainéants, aux éditions Bûcher-Chastel. Et merci à toute l'équipe du magazine du week-end, Amélie Perrault, Clara Garnier-Amouroux, Catherine Donnet. Une émission réalisée par Elisabeth Miro et mise en onde par Alexandre Dang. On se quitte sur Works for You de la chanteuse grecque Etela. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster et même la recommander sur les réseaux sociaux. On se retrouve samedi prochain à partir de 12h40 pour un nouveau magazine du week-end. Mais d'abord, c'est l'heure des idées claires par Nicolas Martin. Bonne journée.